CJSO vous offre les sorties du vendredi.
Et aux sorties du vendredi, c'est Myriam Arpin qui est là en direct de Statera. Venez dîner avec nous, apportez votre lunch si ça vous tente. Et ben là, j'ai un invité, puis je suis super contente. Il y a déjà des gens qui ont pris des photos avec lui. C'est un gars qui sera au Théâtre des Hirondelles tout l'été. Et ce midi, on reçoit Patrice Cocro. Bienvenue.
Merci, merci, bonjour.
Ben, tellement, tellement contente de jaser avec toi, Patrice, parce que pour moi, tu es un comédien exceptionnel, pour bien d'autres aussi. Tu n'étais même pas arrivé, puis on parlait du cœur à ses raisons et, oui. et tout ça, et tous les rôles. Là,
oui, oui.
Puis moi, je t'ai parlé de théâtre et tout ça.
Oui.
Donc, on va en parler de théâtre, on va y revenir dans quelques instants. Mais
oui.
il y a quelque chose qui m'a marqué parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et le 9 avril dernier, tu as écrit que depuis... Bien, le 9 avril, tu disais, depuis hier, 23h45, c'est fait, j'ai 60 ans.
Oui.
Tu disais, un brin surréaliste, même si vieillir ne m'effraie pas. Mm-hmm. Tu dis que tu t'amuses à dire que tu entreprends un 180 degrés avec ton âge de 60 à 9.
Oui.
Tu dis oui. dans l'idée de repartir à zéro, de repartir à 9.
Oui.
Ça voulait dire quoi concrètement, tout ça, ce petit message-là? Ça a-tu rapport avec la pandémie?
Non, pas nécessairement. C'est que je m'amuse, j'ai un petit côté, je m'amuse avec les chiffres, les mots et tout ça. Puis là, je voyais 60, j'ai dit, si on fait un 180, ça fait 0,9. Puis repartir à zéro, repartir à 9.
À 9, OK.
C'est ça, repartir à zéro et repartir à 9 si on fait un 180. Et pour moi, j'ai l'impression, en tout cas en vieillissant, je compose plutôt bien avec le fait de vieillir. Puis j'ai pas peur de la mort. En tout cas, j'ai pas ce problème-là. J'ai eu bien plus souvent peur de la vie. Autrefois, j'ai...
c'est souvent ça, là.
Oui, c'est ça. Puis pour moi, en vieillissant, je suis beaucoup plus en paix. Vraiment, honnêtement. Donc, j'aime la vie. Puis, je me dis, ben écoute, on est jeune de cœur, même si on vieillit, même si notre enveloppe vieillit, notre
ouais.
véhicule. Mais à l'intérieur de moi, je me sens comme une... comment dire? Je me sens vert encore. Tu sais, je suis comme un enfant. J'ai envie de faire plein de choses. Je me sens animé par plein de choses.
Ben,
donc,
c'est le fun.
Je me sens pas blasé du tout. Et surtout pas à ma retraite.
Ben c'est parfait ça, parce
ouais.
que moi aussi, j'ai quoi, 14 ans d'âge mental peut-être, pas de temps en temps, comme ça, ça me fait du bien.
Ouais.
Et on va en parler juste un petit peu, là, mais comment tu as vécu ça, cette période de pandémie-là depuis
ouais.
mars 2020, parce que tu es un comédien,
mm-hmm.
Les contrats ont été repoussés,
ouais.
Tu as vécu comment la période d'incertitude?
Ben le dernier contrat que j'avais fait avant la pandémie, c'était le Malade imaginaire au Théâtre du Rideau
Vert. Que
j'ai vu! C'était formidable et on a réussi à compléter tout l'horaire de la pièce. Et ensuite, j'ai eu la chance, puisque mon copain est agent de bord, j'ai pu aller au Brésil avec lui
wow.
l'accompagner. Puis, et au retour du Brésil, le 5 mars, lorsque là, ça commençait, tout était bloqué et fermé. Durant ces 15 mois-là, j'ai vécu ça. J'ai jamais été dans la peur, j'ai respecté le protocole, tout ça, mais j'ai jamais été dans la peur. Et il y a eu des hauts et des bas, des moments d'irritabilité à cause des contraintes et tout ça, ça j'avoue. Mais pour le reste, je me suis consacré à apprendre un solo que je suis en train de faire,
oui.
que j'ai amorcé, mon solo que j'ai écrit, tout ça. Donc, je me suis consacré à ça, j'ai fait du ménage, j'ai mis les choses à l'ordre. Donc, j'ai utilisé cette contrainte-là plutôt que de la subir.
Donc, ça t'a motivé un petit peu à
oui.
te relever les manches.
Oui, 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 absolument.
Et là, j'ai vu que tu avais fait du désherbage.
J'ai fait du désherbage.
Mais pourquoi avoir choisi le désherbage? Moi, je me suis dit, il y a quelque chose, une motivation là-dedans. Là.
Oui, parce que d'une part, je voulais avoir un petit revenu d'appoint. Bon, bien sûr, il y avait la PCU et la PCRE. Mais je me suis dit, bon, ben c'est zen.
Oui.
Tu sais, la métaphore de ça, l'image de ça, c'est tu désherbes, tu fais du ménage, du trip, tu as les genoux dans la terre. C'est une façon un peu méditative de composer avec cette contrainte-là. Donc, j'ai eu trois contrats et ça m'a permis de rencontrer, entre autres, une personne qui est devenue une amie,
ah.
une courtière en immobilier. Je la salue. Elle s'appelle Nathalie Godin. Et on s'est liés d'amitié. Puis, donc, c'était formidable, ça. Puis d'être dans la nature.
Ça nous ramène à l'essentiel,
oui,
on dirait.
C'est un ancrage. C'est comme de s'enraciner.
Oui, oui, oui. Mais comment les gens ont réagi quand ils t'ont vu arriver? Ils ont fait, oh mon Dieu, c'est le gars de, mettons, du cœur à ses raisons,
ouais,
whatever. Là,
ouais, ouais. Non, c'était parfait. C'était tout simple. Puis moi, j'ai vu ça comme, voici, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème
mais
à
non.
faire ça. C'est tout. Ça fait partie de la vie. La vie, pour moi, c'est une diversité d'expériences, un laboratoire. Donc, pourquoi pas? T'sais.
Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail-là? Tu sais, oui, tu as dit que c'était une expérience méditative et tout
oui.
ça, mais ça t'a apporté quoi? Tu sais, là, on a un recul, un an
oui.
après, là.
Bien, un contact avec l'instant présent, avec la nature, ouais. avec soi. Parce que aussi, cette pandémie-là, évidemment, les gens l'ont vécu de différentes manières. Il y a eu beaucoup d'anxiété. Et Dieu sait que j'ai connu ça. Je suis rétabli ouais. de ça aujourd'hui. Mais donc, les gens, parce que en fait, les certitudes et les habitudes ont pris le bord. Hein. Tu sais, les gens qui prenaient pour acquis que, bon, la normalité, c'est pour l'éternité, bien, pas du tout. Fait que dans certaines circonstances, puis on le voit ailleurs sur la planète, il y a des moments où est-ce que les gens perdent le contrôle et tout ça. Donc là, les gens se sont retrouvés face à eux-mêmes.
Mais
alors,
c'est
une opportunité de se retrouver face à soi parce que de toute façon, on est toujours face à soi.
Oui, mais il y en a qui l'ont pris comme une claque d'en face.
Exactement.
Parce qu'il y a la fuite des fois.
Oui.
On s'entend.
Oui, la fuite.
Là, ben, je trouve ça beau, moi, hein, ce travail-là que tu as fait
oui.
dans un sens. Est-ce que tu aurais pu faire ça pendant longtemps? T'sais, admettons que la pandémie aurait duré longtemps.
J'aurais pu continuer, mais je l'ai fait comme... c'était à ce moment-là, mais j'en ferai pas une carrière, c'est clair.
Non, parce que je me demandais ça parce que moi aussi, j'ai fait un peu comme toi. Moi, j'avais pas besoin de travailler comme tel parce que j'ai travaillé quand même pendant la pandémie.
Oui.
Mais je me suis retrouvée à désherber, à enlever oui. des roches et tout ça
oui.
avec moi-même. Puis je me suis demandé vraiment, est-ce qu'on peut faire ça pendant longtemps quand on a roulé bien gros, tu sais, tu
oui.
comprends?
Oui, oui, absolument. Oui. Mais c'était l'occasion, justement, de se déposer, de ralentir... parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été plus agités ou affolés même par rapport à la pandémie.
Exact.
Est-ce que je vais... Bon, puis il y a eu évidemment des cas très tragiques, dramatiques, où des gens qui ont perdu des proches, qui n'ont pas été en mesure...
Puis dans des conditions épouvantables.
Dans des conditions épouvantables, qui n'ont pas été en mesure de dire adieu ou au revoir à ces gens-là. Donc ça, c'est épouvantable.
Oui.
Mais puis d'autres qui l'ont vécu plus sereinement, ou en tout cas, bon, c'est ça.
Bon, on est dans cette optique-là. Patrice, on va parler de théâtre dans quelques minutes. Tu as oui. parlé du balade imaginaire. Moi, je veux oui. parler de théâtre, c'est
oui.
clair, net et précis.
Oui.
On va s'arrêter quelques instants, on va aller en musique. Et ben, les sorties de vendredi se poursuivent avec toi jusqu'à 12h30. On
oui.
a une bonne jasette.
Oui.
Puis si ça vous tente de venir voir Patrice, là, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent des selfies avec toi et tout
oui.
ça, réseaux sociaux. Hein.
Oui.
Ben, t'es là-dessus un
oui,
peu,
oui,
je suis pas
super. Oui,
fait
oui.
que, on est capable de gérer ça. Donc, on poursuit les sorties de vendredi avec toi dans quelques minutes.
CJSO vous offre les sorties du vendredi.
Aux sorties du vendredi avec Patrice Coquereau. On va parler du théâtre des Hirondelles dans quelques instants parce qu'il est là tout l'été. Mais juste avant, on en a parlé un peu. J'ai vu Le Malade imaginaire
oui.
Avant la pandémie. Tu incarnais le docteur Diafoirus.
Oui.
C'était vraiment fou, là. J'ai pas d'autres mots. C'était une performance incroyable. Tu sais, puis le docteur Diafoirus n'est pas là longtemps.
Non.
Et je m'en souviens encore de la performance. Je t'ai aussi vu jouer dans Candide au TNM avant ça, puis sûrement dans d'autres pièces, là,
oui,
parce
oui, oui,
que
oui.
Ma tante a vieilli aussi. Fait qu'à un moment donné, on t'a vu à la télé, au cinéma
oui.
aussi, mais le théâtre, pour toi, ça représente quoi?
Bien, le théâtre, c'est un contact direct avec les gens. Donc ça, c'est un terrain de jeu formidable. C'est là que j'ai commencé. Par la suite, il y a eu de la télé, du cinéma, puis j'ai fait même de la mise en scène.
Oui.
Là, je donne des conférences sur les troubles anxieux également. Mais j'aime bien le contact direct aussi, mais j'aime tous les médiums aussi. C'est de la communication, en fait. J'aime beaucoup tout ce qui relève de la communication. Donc ça, c'est vraiment... j'adore ça.
Et comment tu te sens quand tu montes? Parce que... Oui, tu vas jouer au Théâtre des Hirondelles, c'est super cool, là, c'est un super beau théâtre aussi, mais quand
oui.
on monte comme sur les planches du TNM, du
oui.
rideau vert,
oui.
comment on se sent?
Ah, bien, c'est au départ, évidemment, parce que ça fait 35 ans que j'ai gradué.
Clairement, là, que tu t'es habitué. Là,
de assez... l'École nationale oui. ou de théâtre. Fait qu'au départ, c'est bien excitant, c'est bien enivrant, c'est bien... c'est formidable. Mais au fil du temps, bien, c'est quand même notre travail. Donc, c'est pas qu'on est blasé, absolument pas, mais c'est un privilège. Mais c'est quand même un terrain de jeu qu'on finit par connaître. Puis, c'est-à-dire les endroits, ces lieux-là, mais c'est des lieux très inspirants puis très dynamiques également.
Oui, jouer du Molière
oui.
Au Rideau Vert ou
oui,
du Candide.
Du Québécois.
Ouais,
j'ai fait beaucoup de créations, moi, depuis,
exact, oui.
depuis 35 ans. Alors, mais c'est toujours une belle aventure. Et plus ça va, plus je savoure ça pour les bonnes raisons. Parce qu'au départ, il y a 35 ans, évidemment, je voulais faire ma place, je voulais être aimé.
Mais on veut tout ça,
ouais, quand
on commence.
Jeune, on veut, bon, tout ça, il y a un désir de reconnaissance. Ça, mais avec les années puis l'expérience, ça c'est un peu plus en coulisses. C'est davantage le désir de vivre l'instant présent, puis de partager, puis de rencontrer des équipes extrêmement riches. Là, donc ça nourrit beaucoup, beaucoup l'âme. Je m'amuse à me à dire en vieillissant que je nourris de plus en plus mon âme et moins mon ego.
Oui, bien, c'est inspirant, ça. Ça, ouais. ça nous apprend beaucoup. Et là, cet été, bon, le Théâtre des Hirondelles, dans Camping tout inclus, nouvelle administration, c'est la suite de Forfait tout inclus qui avait été présenté en 2018.
Je crois que oui.
Et
oui.
tu t'ajoutes à la distribution cette année. Parle-nous de l'histoire de la pièce.
Alors, c'est une pièce écrite et montée par Francis Vachon, qui avait également fait créer Forfait tout inclus. Alors, l'histoire, c'est que les personnages de Jojo, Sylvie Potvin et Mimi, Denis Hull, qu'on voyait dans Forfait tout inclus, ben là, ils se retrouvent à hériter d'un camping. Donc, Jojo, sa tante, est décédée et elle a hérité d'un camping. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Arrive un autre couple, Jean-Marc Dalphon et Sophie Bourgeois, qui ont beaucoup de moyens, mais ils sont un petit peu quétaines, on va dire.
Quétaines? Ils sont pas pétus de brou?
Ben, pétus de brou aussi.
Ah oui, je l'aurais dit de même.
Donc, ça génère une espèce de compétition, surtout entre les deux hommes.
Ouais.
Puis les filles se lient d'amitié. Elle commence à parler de spiritualité, aussi en parlant du livre Le Secret, dont tout le monde a entendu parler il y a quelques années. Fait que là, la table est mise. Et sur le. Moi, j'arrive un peu plus tard dans la pièce.
Tu joues quoi?
Je joue un gourou. Donc, les femmes se laissent embobiner par ce gourou-là que j'incarne, qui se nomme Osho, O-S-H-O. Et c'est comme s'il démarre une secte, puis là, elles embarquent dans la secte, puis là, lui, il les séduit, les envoûte et tout ça. Et les gars sont bien découragés de voir leurs femmes comme ça
se laisser
piéger par ce gourou-là. Fait qu'ils essayent de tout faire pour les ramener à la raison, mais elles veulent rien savoir. Et de fil en aiguille, évidemment que je ne dirai pas le punch, mais il s'avère que le personnage d'Hugo a une autre facette que l'on découvre tranquillement, mais sûrement vers la fin.
C'est le fun de jouer dans des comédies comme ça, parce que là, c'était un autre range. Là. On peut s'en permettre. Là.
Oui.
Jouer un gourou dans une comédie comme ça.
Ah non, c'est formidable. c'est drôle. Là. Puis, Francis Vachon a des bonnes idées. Puis, on s'amuse aussi. Puis on a rajouté des petites choses dans le texte. On s'est amusé aussi à travailler vraiment de concert, tout le monde. Fait que c'est bien excitant. Puis je suis content aussi. Puis les producteurs, Valérie puis Guillaume, sont super accueillants. Moi, c'est une première pour moi au Théâtre des Hirondelles. Alors, on commence le 25 juin.
La
semaine prochaine. Puis on joue jusqu'à même en septembre. Et le téléphone sonne, c'est formidable.
Mais oui, je suis allée voir sur le site. Puis là, il y a des dates complètes déjà. Là, mais déjà, là, c'est sûr qu'il y a la distanciation et tout ça.
Oui, il y a
là,
la distance.
Quand même.
Et la jauge. Mais quand même, puis là, on sait qu'on va passer en vert éventuellement. Puis donc...
Ça fait du bien.
Oui, ça fait énormément.
Puis là, moi, je me demandais, parce que tu sais, je sais ce que tu es capable de donner sur une scène.
Oui.
Puis je connais pas... Je les ai vus sur des scènes aussi ou dans d'autres projets. Mais moi, je le veux savoir. Tu sais, Denis Hull et Sylvie Potvin, surtout Sylvie Potvin, qui est incroyable. Les deux sont incroyables. Là, tu joues avec... Tu sais, il n'y a pas personne qui n'est pas bon dans cette pièce-là.
Non.
Mais c'est comment jouer ou travailler avec eux, tu sais, parce que moi, je rirais tout le temps, là, jouer avec Sylvie Potvin.
Mais on rit. Et Sophie Bourgeois rit beaucoup aussi. On a beaucoup de plaisir. Moi, c'est une... sauf Sylvie, avec laquelle j'ai déjà joué à la LNI une saison.
Ah oui, c'est vrai.
Mais je n'ai jamais joué avec qui que ce soit d'autre. C'est une première au Théâtre des Hirondelles. C'est une première travailler avec Francis Vachon à la direction puis comme auteur. Et les autres aussi, Jean-Marc, Sophie, Denis, c'est la première fois que... Mais ils sont formidables. Ils ont une grande humanité, ils sont généreux. Il n'y a aucun irritant, c'est vraiment le bonheur.
Puis là, je ne sais pas s'il est trop tôt pour demander ça, mais on a eu une première mouture avec Forfait tout inclus. Là, il y a Camping tout inclus.
Oui.
Est-ce que, bien là, tu sais, parce que manifestement, c'est pas commencé puis ça marche déjà bien.
Oui.
Y a-tu des projets pour une troisième pièce, des fois, tu sais?
Ça, je suis pas au courant de
ça. On va mettre la pression sur M. Vachon.
Oui, ça serait bien, mais oui, absolument. Mais chose certaine, les producteurs ont déjà des projets, évidemment, pour 2022 et au-delà.
Oui, parce que là, on peut rêver, on commence à déconfiner un peu, mais là, la pièce devait être présentée l'an dernier.
Oui.
Puis là, ça a été réfléchi même pour cette année, à savoir si on faisait la pièce ou pas. Mm-hmm. Comment vous arrivez au théâtre? Parce que là, vous êtes beaucoup quand même sur scène à respecter toutes les mesures sanitaires requises. Ça a dû être une gymnastique, là?
Oui, au départ, en salle de répétition, on portait les masques. même en jouant, puis à distance et tout ça. Puis la mise en scène de Francis fait en sorte qu'on garde toujours cette distance-là. Quoique là, à cause des nouvelles mesures, les distances sont un peu moins grandes. Mais Francis est arrivé à faire quelque chose qui se tient néanmoins très bien. Alors, c'était ça, donc les masques au départ. Ensuite, graduellement, on a pu commencer à enchaîner en enlevant les masques. Et puis là, depuis qu'on est en jaune, zone jaune, bien là, on peut circuler dans le théâtre sans les masques du moment qu'on garde une certaine distance. Mais donc, ça s'est bien fait.
Et le public doit s'attendre à quoi, là, pour les premières représentations? C'est comme aux autres théâtres, là, des bancs
Je pense que c'est ça. Il y a des bancs qui sont condamnés, d'autres qui sont... Enfin, il y a différentes bulles qui sont respectées, okay. Tout ça. Là. Oui, il y a toute une logistique, mais c'est très, très bien pensé. Puis, et Dieu sait que les producteurs ont travaillé fort pour contacter les groupes et tout faire en sorte d'aménager en fonction de ces contraintes-là. Mais donc, ils ont vraiment jonglé d'une façon incroyable.
Donc, un bel été en perspective été. Oui. Pour ça. Si on veut avoir des billets, là, ça, je suis allée hier sur le site du Théâtre des Hirondelles. Oui. Il n'y a pas de problème
absolument.
Avec ça. Là.
C'est très, très clair. Oui,
oui c'est très clair. Et un peu plus tôt, tu as abordé quelque chose, puis je veux vraiment en parler avant d'aller aux informations de midi.
Oui.
Tu as ton spectacle solo, Partition. Tu étais en rodage cette semaine. Puis je pense que tu es venu faire quelque chose à Sorel en lien avec ça aussi. Là, mais peux-tu m'en parler davantage? On ne connaît pas le projet encore. Là.
Oui, Partition, c'est un projet que j'ai initié il y a 3 ans. Donc, j'ai travaillé, j'ai écrit ce projet-là théâtral. C'est la première fois que j'ai écrit du théâtre. J'avais écrit un bouquin en 2014 sur les troubles anxieux, mais là, j'ai écrit ça et je suis plongé là-dedans. Ensuite, il y a eu des coupures et depuis la pandémie, justement, ben là, je me suis attelé à la tâche d'apprendre ça par cœur. J'ai jamais appris autant de textes. C'est 25 pages de texte, c'est 7 personnages. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir le roder dans un petit café qui s'appelle le Café Morin à Sainte-Adèle, 2 soirs. J'ai eu un coup de cœur quand je suis rentré là. Et c'est une toute petite scène, c'est une salle de 30 places, un restaurant où on mange très, très bien, des produits locaux et tout ça. Et donc, c'était complet les 2 soirs et j'ai brisé la glace. J'avoue que j'avais quand même pas mal le trac parce que c'est la première fois que je jouais seul en 35 ans de métier. J'ai jamais joué seul et en plus, c'était mon texte. Et la réception a été formidable.
Ah,
j'ai
oui?
des super commentaires, des suggestions et tout ça. Et j'ai rencontré Martin Rousse qui vient de...
De Sorel,
qui a fait le projet ici à côté avec la scène qui est juste à côté de nous.
Oui, là. De Statera.
C'est Statera, ça, exactement. Okay. C'était formidable. Donc, lui a filmé, enregistré les 2 soirées de Partition, en plus des commentaires des gens. Donc, ça va être un document de travail que je vais utiliser pour la suite. Et je suis très content parce qu'il y a des diffuseurs aussi qui se sont pointés. Donc, le rodage va se poursuivre cette année dans les Laurentides.
Et dans une salle près de chez nous,
oui.
À un moment donné.
Oui, oui,
et
oui,
ça parle d'anxiété, c'est ça?
Non, pas du tout.
Absolument. Non, pas du
non.
tout.
Ben, en fait, oui, les personnages sont tous un peu fragiles, mais c'est pas le propos comme tel. Partition, ce sont 7 monologues de 7 personnages, 5 hommes et 2 femmes, dont les prénoms commencent par les notes de musique. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ouais, Dominique, okay. Rémi, Michel, Fabien, Solange, Lambert et Simone, qui se confient chacun à tour de rôle sur un moment charnière où leur vie a basculé. Donc, c'est sur le ton de la confidence et tout ça. Et certains d'entre eux se connaissent. Alors, c'est ça le propos. Donc, c'est
voilà. Mais ça va parler à tout le monde, là.
Oui, absolument.
Parce que tout le monde vit un moment comme ça dans une vie.
Oui, oui, des moments de doute, de déséquilibre, de fragilité. Et donc, les commentaires des gens ont été très instructifs parce que les gens étaient très attentifs, très à l'écoute. Puis, beaucoup se reconnaissaient dans certains passages où ça leur rappelait soit eux ou des personnes de leur entourage. Donc, je suis très content.
Bien, on va s'arrêter quelques instants, Patrice, parce qu'il y a les informations de midi avec Sylvain Rochon et Gilles Péloquin. Et au retour de la pause, de cette pause, on va parler un petit peu d'anxiété, de ce projet, de ton livre, en fait, de projet de conférence et tout ça. Là.
Tout à fait.
Parce que l'anxiété, ça nous touche tous.
Absolument.
Et il faut que j'en parle avec toi un petit peu. Donc, les sorties du vendredi, ça poursuit avec Patrice Cocro en direct de Statera, tout de suite après le bulletin de midi.
CJSO vous offre les sorties du vendredi.
Au grosse sortie du vendredi avec Patrice Coquereau. J'ai l'impression qu'une heure, ça sera pas assez pour jaser avec toi.
Ça passe vite.
Mais ça passe ben trop vite. Je capote. Puis je veux parler, entre autres, de ton livre « Guérir à gorge déployée ». Ça a sorti en 2014.
Oui.
C'est sûr que ça parle d'anxiété dans le livre et tout ça, mais ça a visiblement parlé à beaucoup de monde. Mm-hmm. Est-ce que tu es tanné qu'on t'en jase d'anxiété? Est-ce que tu es étiqueté le mot anxiété maintenant?
Si les gens m'étiquettent, c'est leur problème dans le sens. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On porte plusieurs chapeaux dans la vie, fait que je l'ai vécu. Je peux pas m'en cacher. Puis je donne des conférences sur ce sujet-là.
Donc c'est OK qu'on t'en parle dans le fond.
Absolument.
C'est ça?
Je fais partie d'une agence de conférenciers, puis qui s'appelle Formax. Puis je donne des conférences. Puis j'en parle parce que moi, quand j'ai souffert de ça il y a une trentaine d'années, bien, je me sentais isolé. Puis beaucoup de gens vont tomber. Il faut pas que ça paraisse. On vit dans un monde de performance. Donc, c'est caché, c'est masqué souvent. Puis les gens vont porter ça comme une tare ou comme de la honte. Alors qu'au contraire, si on met ça sur la table puis qu'on commence à en parler ouvertement puis qu'on trouve les moyens pour se rétablir, bien, on retrouve un équilibre puis une fluidité puis une santé psychique. Ouais. Donc, Le premier pas est souvent le plus difficile, c'est-à-dire d'en parler puis de chercher les outils pour se rétablir. Je suis porte-parole de Phobie Zéro depuis plusieurs années, 2014 je crois également. Et donc oui, j'en parle ouvertement, mais ma vie n'est pas que ça. De toute façon, je suis rétabli des troubles anxieux, mais maintenant je prends l'ascenseur, je conduis, je prends l'avion, j'ai même sauté en parachute, là, j'ai fait mon solo, donc je me suis donné les outils pour me rétablir. Et l'outil essentiel que j'ai cultivé, je suis pas passé par la médication, ça c'est mon choix, je dis pas qu'il faut pas en prendre, mais c'est le chemin que j'ai parcouru. Moi, c'est de faire face, littéralement. Parce que dans des cas comme l'anxiété, évidemment qu'on va chercher à fuir ou à éviter l'objet de sa phobie. Par exemple, des gens qui ont peur des ascenseurs vont prendre les marches. Bon, c'est bon pour la santé, mais vont vouloir éviter ça.
Toi, c'était quoi? C'était des phobies que tu avais?
C'est sur un joint que ça s'est déclenché en 1983. J'ai très mal réagi au THC et mon monde s'est effondré. Donc,
Pour un joint, là?
Oui, j'avais déjà fumé, mais là, un soir, j'étais seul chez moi, j'écoutais de la musique. Tout à coup, ça a basculé. J'ai eu peur de tomber dans la
folie. Est-ce qu'on t'explique pourquoi? T'sais, parce que j'ai vraiment réagi quand j'ai lu ça. Je fais comment un joint, seulement un joint, peut déclencher, entre guillemets, là, 30 ans d'anxiété, là, tu sais?
Oui, ben, je portais déjà tout ça en moi. T'sais, c'était déjà, j'étais comme une bombe sur deux pattes, là, si tu veux. Et puis, j'avais déjà fumé auparavant, mais là, ce soir-là, j'étais plus fragile, j'étais plus fatigué, je sais pas. Puis là, ça a comme ouvert un canal ou je sais pas quoi, mais.
C'était là.
Puis mon monde s'est effondré, tout s'est émietté. Tu sais, pensez à un miroir qui se casse, là.
Ouais.
T'as plus le miroir, c'est juste des milliers de morceaux. Puis il a fallu que je m'attelle à la tâche de me reconstruire. Et l'outil que j'ai développé, évidemment, ce métier-là est un métier d'acteur. Tu sais, il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a pas de certitude. Donc, je suis allé là exactement où ça me dérangeait. Ça m'a permis, au fil du temps, de diminuer l'intensité de la phobie. Donc,
mais
là,
comment on fait ça? Je veux dire, je ne sais pas si je rentre dans quelque chose de trop personnel,
non,
mais comment on rentre dans ce qui nous fait peur, tu sais?
Bien, c'est-à-dire que...
Avec une thérapie, avec des aides?
Je pense qu'il y a autant de chemins de guérison qu'il y a d'individus. Moi, j'invite toujours les gens à... par exemple, il y a Phobie Zéro, il y a de la documentation, de l'écoute téléphonique. Commencer à faire les premiers pas, qui sont souvent les plus difficiles, pour sortir de cette bulle de terreur-là, puis commencer à visiter autre chose. Évidemment que ça demande du courage, surtout les premiers pas, mais c'est comme apprendre à marcher ou faire du vélo. Tu vas tomber, mais tu vas te relever, puis c'est à force d'être déterminé puis d'y aller à son rythme, mais c'est pas une course, bien que là, graduellement, il y a une désensibilisation qui va s'opérer pour se réapproprier sa vie. Donc, c'est ça. Graduellement, moi, j'ai repris l'avion, j'ai même sauté en parachute, tout ça. Et aujourd'hui, bien, je me sens libre.
Libéré. Un peu. Et tu as fait une marche, 570 km en 2019.
Oui.
Tu étais passé par Sorel-Tracy.
Oui.
Puis là, ce que je me souviens plus, c'est moi qui ai fait l'entrevue ou c'est Luc. En tout cas, tu étais venu en parler à CJSO. Mm-hmm. Tu t'es rendu à Rimouski.
Oui.
Tu voulais amasser des fonds là, pour Phobie Zéro, mais on... T'es ressorti comment de cette aventure-là? Parce que 570 kilomètres à marcher, à être avec soi-même, un peu comme le désherbage, on ressort comment de ça?
Ça a été une aventure absolument incroyable. Je suis parti de Longueuil jusqu'à Rimouski et toutes les conditions étaient réunies là, pour que ça fonctionne, hormis le premier 20 km jusqu'à Varennes ou Verchères, où là, je me suis dit le soir, en me couchant, oh là là, je pense que j'ai peut-être vu trop grand. Après ça, j'étais très déterminé et j'ai jamais douté que j'allais me rendre jusqu'à Rimouski. Et c'est incroyable comment les conditions se sont réunies. Quelqu'un s'est occupé de l'hébergement. Les gens ont dit oui. J'ai rencontré plein de gens. Il n'y a eu aucun irritant. Il y a eu 4 heures de pluie durant les 6 semaines pendant que je marchais. Ça a été initiatique. Et oui, c'est une rencontre avec soi et avec les autres. J'ai fait des rencontres incroyables. Les gens étaient d'une franchise, d'une transparence. C'était extrêmement bouleversant.
Oui, parce que là, tu reçois des confidences maintenant. Oui. Et tu apportes un message d'espoir, oui, dans le fond, aux gens.
Absolument. Oui.
Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui souffrent d'anxiété? Parce que je sais qu'il y en a ici qui sont à l'écoute. Oui. Il y en a beaucoup. Puis oui, que ce soit à moins grande échelle ou à plus grande échelle, même moi, ce matin, j'étais anxieuse pour une affaire, oui, par rapport, là, tu sais, oui, qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui souffrent d'anxiété?
Premièrement, que c'est un phénomène qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc, dès qu'on se sent comme ça, souffrant et tout ça, surtout pas se condamner ou se taper dessus en disant, ben, il ne faut pas que ça paraisse et tout ça. Chaque être humain est unique. Et le fait d'être anxieux, c'est souvent un signe d'hypersensibilité, ce qui est une qualité aussi.
Oui, des fois, on ne voit pas ça comme ça. Hein?
Non. Et la façon dont j'ai traduit les troubles anxieux, c'est la façon suivante. C'est exactement comme un conflit entre notre nature, notre essence, et puis notre ego, notre conditionnement. Pensez un peu à l'image d'un cocon ou d'une chrysalide dans lequel est enfermé le papillon. Le papillon veut sortir, mais c'est comme si la chrysalide disait « Non, non, sors pas de là, tu risques de te brûler les ailes ou de te faire mal. » Donc, c'est la vie, c'est une aventure, c'est d'aller vers l'inconnu, d'aller vers soi, puis de proposer qui on est. Et non pas d'essayer de se limiter à correspondre à ce que les autres veulent. Je me dis toujours que tout être humain est un livre dont on ne voit que la couverture, mais il y a toute l'histoire à l'intérieur qui est très, très riche. Alors, c'est important d'être fidèle à soi, puis de s'intéresser à soi, puis d'offrir ce que l'on est aux autres.
Mais dans le fond, quand on est anxieux, on correspond pas à ce qu'on est vraiment. Je crois.
Non, c'est ça.
Suite à ce que j'entends. Là.
C'est notre nature qui veut émerger, mais c'est notre conditionnement qui nous contraint.
C'est ça.
Dire, sors pas tout à coup que. Tu sais, les fameuses phrases, oui, mais t'as-tu pensé que, mais tout à coup que, puis tout à coup. Vivre dans le doute, la division, c'est épouvantable. Et une chose étonnante, que peut-être pour les gens, ce que je veux dire, c'est le connu qui est anxiogène, ce n'est pas l'inconnu.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est bizarre ce que je dis, mais
c'est
souvent un conflit entre le connu qui ne veut pas sortir de sa zone de confort, c'est ce qui génère l'anxiété. Mais si on s'exerce à aller vers l'inconnu, c'est là que le voyage incroyable de la vie commence.
En tout cas, on va aller voir tes conférences là-dessus, parce que là, j'ai pas assez de temps pour en jaser de ça, puis j'aurais aimé ça, mais il fallait en aborder ça un petit peu.
Oui.
On va écouter une chanson de Louis-Jean Cormier, parce que c'est un de tes prefs.
Oui.
On va, de l'autre côté de la pause, conclure cette entrevue, Patrice, mais j'aurais envie que ça dure 2 heures, là, mais on a d'autres invités aussi, puis tout aussi passionnants. Donc, Louis-Jean Cormier et les sorties du vendredi se poursuivent avec Patrice Coquereau dans quelques instants.
CJSO vous offre les sorties du vendredi.
Les sorties du vendredi avec Patrice Coquereau. Ça passe trop vite,
ah,
on l'a
passe.
Dit.
C'est incroyable.
Patrice, en terminant, en 2015, tu as remporté un Gémeaux pour le meilleur rôle de soutien dans une série jeunesse pour Vrac la vie. Comment tu as accueilli ça, ce prix-là?
Ah, c'était formidable. En plus, quand j'étais pas présent parce que je tournais un film, la version française de Père en flic. Qui s'est tourné en France, puis j'ai su ça, j'étais à 5000 km, mais j'étais très touché, puis vraiment enchanté, puis c'était une super série, Vrac la vie, fait que oui, ça fait du bien, ça fait plaisir, en fait, mais en même temps, comment je dirais, un trophée, bien, c'est une belle tape sur l'épaule, mais il ne faut pas non plus, comment dire, attendre après ça.
Non. Et à la télé, tu as été mon rock franqueur dans Robin Stella. Tu as été la voix de Gervais dans Une galaxie près de chez vous, mon Franck aussi dans Rumeur.
Rumeur,
je l'aime. En tout cas, bref, on t'a vu dans le cœur, à ses raisons. Tout le monde
voulait
dans toutes ces affaires-là. Ça te fait quoi d'avoir marqué toute une génération? C'est gros, là, mais quand même.
Ça, c'est vraiment étonnant parce que quand j'étais petit aussi, puis je regardais les émissions jeunesse à, mettons, à Radio-Canada ou à TVA, peu importe, mais puis que j'ai vu les artistes ensuite, plus tard, quand je suis arrivé à Montréal, j'étais bien, bien impressionné, puis ils avaient marqué mon enfance. Mais en même temps, c'est notre travail. Des fois, on n'est pas toujours nécessairement conscient qu'on marque parce que, tu sais, c'est un travail aussi.
On fait notre job,
du mieux qu'on peut, mais des fois, on n'est pas toujours conscient de ça, mais ça fait toujours plaisir quand les gens apprécient ce qu'on fait.
En tout cas, moi, je suis bien contente. Et, bon, tu as joué, bon, on l'a dit, là, de beaux rôles à la télé, au théâtre, au cinéma.
Oui.
Au cours des 35 dernières années.
Oui.
Tu as 60 ans maintenant. Ça fait 11 ans que tu es avec ton amoureux.
Oui.
De quoi que tu aurais envie dans ta vie professionnelle, mais personnelle aussi?
Mon Dieu, voyager, continuer à voyager intérieurement, extérieurement, puis continuer à développer la prise de parole, parce que pour moi, c'est essentiel. Rester en équilibre, comme je le suis. Puis dans le mot équilibre, il y a le mot libre. Fait que c'est... Donc, je suis animé encore par... plein de projets, je ne suis pas du tout blasé, puis des belles rencontres, je me souhaite des belles rencontres, aussi des collaborations avec plein de personnes, puis beaucoup de créations en fait.
Bon, mais moi, ça a été une super belle rencontre.
Bien,
je suis vraiment comprise pour mon premier sortie du vendredi de 2021. Patrice, je vais te laisser manger ta soupe de la bouffe du paille. On va inviter les gens à aller te voir au théâtre des Hirondelles. Ça commence le 25 juin.
Oui, jusqu'au mois de septembre.
Et après ça, partition en tournée peut-être à suivre et d'autres projets.
Il y a des projets en 2022 et au-delà, oui.
Bien, merci beaucoup, Patrice Coquereau.
Merci.
Luc de Noncourt est pas loin. On va être d'accord pour te dire que la porte est toujours grande ouverte à CJSO.
Ah, merci à vous. C'est formidable.
Et on salue ton amie Marie-Josée Baudreau, qui était
Marie-Josée.
Chroniqueuse à Pop et Rock il y a un temps, mais elle nous écoute, alors voilà.
Oui, bonjour Marie-Josée.
C'est fait. Bien, merci beaucoup.